appelle à. Dieu appelle. Et j'ai relevé trois aspects de la manière dont Dieu appelle. Dieu appelle, ou disons, Dieu nomme, il donne un nom. Dieu appelle au sens appeler quelqu'un ou interpeller. La définition, c'est s'adresser vivement ou soudainement à quelqu'un pour lui demander quelque chose ou pour lui dire quelque chose. Et le troisième aspect que j'ai retenu, c'est Dieu appelle pour proposer ses pensées à lui, ses chemins, ses destinées à l'humanité. Dans Genèse 1, 5, voilà, nous lisons que Dieu appelle, il nomme la lumière jour et lui donne un nom. Il nomme l'obscurité nuit. Ce fut le premier jour. Moi, je m'émerveille quand on imagine toute cette création. Ça devait être... Enfin, voilà. Bon. Il a créé, il a nommé le ciel où il l'a appelé le toit. C'est joli, ça. Il a nommé la terre, la mer. Il crée d'abord, il organise, puis il nomme. Il donne un nom, il appelle. Hein? Quand un enfant est né, comment on l'appelle? Hein? Sophie, elle n'a pas voulu dire comment Emmanuel allait être appelé jusqu'au moment où voilà, il est né. C'était un secret. Dans Genèse 2, on voit que c'est l'être humain qui nomme les animaux. Ce n'est pas Dieu, c'est étrange, hein? Intéressant, on ne va pas s'étendre sur tous ces questionnements qui sont là, mais je trouve que ça donne des informations intéressantes. Et dans Genèse 3, en fait, c'est l'homme qui nomme sa femme, la femme, pas sa femme, la femme. Hein, autre chose. Dans Romains 4, 17, il est dit « Dieu qui appelle le néant à exister » les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est fou ça. Hein? Et dans Ésaïe 43, 1, on va peut-être pouvoir le mettre. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô. Mettez votre prénom. Celui qui t'a formé, ô. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dieu nous appelle par notre nom, parce que nous lui appartenons. Il nous a donné notre nom, je le crois, au travers de, on peut dire, sont nos parents qui ont choisi les noms. Je crois que derrière les parents, il y avait aussi le Seigneur qui donne un nom. Dans Ésaïe 49, 1, il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Dans d'autres versions, il est mis « Dès avant ma naissance, le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans le ventre de ma mère quand il a dit mon nom. » Ces paroles, elles sont importantes. Dieu nous connaît déjà dans le ventre de notre mère. Tout enfant conçu est déjà aimé et nommé par Dieu. Beaucoup sont des enfants non désirés. Mais savoir que je comptais déjà pour lui, cette parole peut devenir une vraie parole de guérison. Je crois que beaucoup d'enfants ne sont pas désirés. Certains le savent parce que les circonstances, les parents le leur ont dit. Mais dans beaucoup de situations, c'est un vrai secret de famille. Qui se répercute sur notre existence. Mais, comme nous le disait la parole prophétique de tout à l'heure, si je prends du temps devant la face de Dieu, Dieu peut mettre en lumière ce secret et venir faire émerger cette souffrance inconsciente souvent qui est là. Et il peut remplacer cet espace de souffrance par cette parole. Dès avant ma naissance, le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans le ventre de ma mère quand il a dit mon nom. J'existais déjà avant que je sois. C'est extraordinaire. Dans la pensée de Dieu. Hein? Dans Ésaïe 45, il est dit « Je t'ai parlé avec bienveillance. Je t'ai appelé par ton nom avant que tu me connaisses. » Avant que je connaisse le Seigneur, il m'avait déjà appelé, avant ma nouvelle naissance. Il m'avait déjà appelé par mon nom. Il existe beaucoup de passages dans l'Écriture, si vous prenez une concordance, qui explique cet aspect-là où Dieu appelle. Hein, dans Genèse 35, il est mis « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Waouh ! Vous rendez compte l'importance historique, politique. Tu seras appelé Israël à un moment précis. Il y a une création, une nouvelle création. Pour Abraham, tu ne seras plus appelé Abraham, mais Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Là aussi, il y a un nom qui provoque une bascule, quelque chose d'essentiel. Jésus nous dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Waouh, ça c'est fort. Dans Actes, il est marqué, les disciples sont appelés pour la première fois des chrétiens. Ça aussi, c'est une sacrée bascule. Hein? Les chrétiens ont été nommés comme s'ils ont été établis, reconnus. Ils étaient. Il y a un autre verset un peu plus difficile, Ésaïe 5:20. Malheur à qui appelle le mal bien et le bien mal. On peut aussi appeler ce qui est bien mal. Et je crois que dans notre société, on en est là. Pour beaucoup de choses. Pas pour tout, mais pour beaucoup de choses. La deuxième aspect, c'était Dieu appelle au sens interpellé. Genèse 3, 8 à 9. Nos amis Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et sont partis se cacher dans le jardin parce qu'ils avaient peur. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» La toute première interpellation de Dieu. « Où es-tu ?» On pourrait paraphraser en disant, « Où en es-tu ?» Quelle question ! Dieu savait très bien où ils étaient. Il n'y avait pas besoin de lui donner une explication. Il sait tout. Rien n'est caché devant lui. Mais Dieu interpelle parce qu'il veut une relation avec nous. Notre Dieu est un Dieu qui parle et qui nous a créés avec une bouche et un cœur pour entendre et lui répondre et lui parler. On a été créés à leur image. Dieu n'a jamais cessé d'interpeller l'humanité et de la chercher pour entrer en relation avec lui. Le Dieu créateur de l'homme et de la femme les a créés à leur image, donc quelqu'un qui communique, qui parle. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu appeler Agar quand elle était perdue dans le désert. Où tu es, Agar ? Je suis perdue. Puis elle raconte son histoire. Dieu appelle Moïse dans le buisson ardent. Moïse, Moïse. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert. Il ne comprend toujours pas. Dieu pourrait lui dire, ouais, tu te rends compte, ça fait 80 ans que... Non, Dieu se révèle à lui, encore et toujours. Non, Samuel, l'Éternel appelle Samuel, un enfant. Samuel, Samuel, Kaelig, Kaelig. Hein? Et il ne comprenait pas non plus, parce que entendre Dieu, ce n'est pas évident de comprendre que c'est lui qui nous parle, qui nous interpelle, qui vient nous secouer dans notre sommeil, qu'il soit un vrai sommeil ou un sommeil spirituel. Dans le Nouveau Testament, Dieu appelle Saul de Tarse. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Quelle interpellation là aussi. Waouh ! Il y a une sacrée bascule là aussi. Ça a changé la face du monde. Une personne, avec les autres, il n'était pas tout seul, notre Paul. Mais il a sacrément changé le visage du christianisme, et on en est au bénéfice encore 2000 ans après. Alors, Dieu appelle-t-il encore ainsi aujourd'hui ? Je le crois, car tout lui est possible. L'appel de Dieu peut prendre plusieurs formes, mais quelle que soit la forme, cet appel devrait nous toucher au cœur, nous bouleverser. La semaine dernière, il y a eu un appel à choisir la vie et pas la mort. Dieu appelle encore aujourd'hui. Quand Dieu dit « Je frappe à la porte si quelqu'un m'entend », et qu'il m'ouvre, je mangerai avec lui et lui avec moi. Hein, je dis souvent, il y a un tableau à Londres, dans une cathédrale, où on voit un peintre a peint cette parole. Et la chose subtile, c'est que sur la porte, il n'y a qu'une seule clenche. C'est une porte, il n'y a pas deux clenches. Il n'y en a qu'une. Jésus d'un côté, un homme d'un autre. Et la clenche, la seule, elle est du côté de l'homme. Elle n'est pas du côté de Dieu. Il avait tout compris, ce peintre. Parce que Dieu appelle, Dieu frappe à la porte de notre cœur, de nos vies, que ce soit pour le moment de la conversion, mais pour après aussi, tout au long de notre existence. Dieu ne cesse de nous appeler. Et le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est l'appel de Dieu pour un objectif précis. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 1, 9, si tu veux mettre, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est un appel de Dieu. C'est une sacrée bascule si je réponds à cet appel. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, appelés par Dieu à être en communion avec son Fils. Et cela est possible parce que le Fils a lui-même été appelé par son Père pour le salut. Jésus-Christ savait pertinemment bien pourquoi il venait sur terre. C'était pour le salut des hommes. Et parce qu'il nous a sauvés, nous pouvons être en communion avec lui. Nous sommes appelés à cette communion et à retrouver cette communion. C'est le même appel que dans le jardin d'Éden pour Adam et Ève. Où es-tu? Parce que je veux retrouver la communion avec vous, avec toi. Dans Thessaloniciens, il est mis, Dieu nous a appelés à entrer dans son royaume pour participer à sa gloire. Waouh ! À entrer dans son royaume pour participer à sa gloire. Dans Timothée, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Nous sommes appelés à la vie éternelle. Pas à la mort éternelle, à la vie éternelle. Sacrée bascule, là aussi. Ceux que Dieu a choisis d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a rendus justes. Il leur a donné la gloire. Nous sommes appelés des ténèbres à la lumière. Il nous a appelés au salut par la bonne nouvelle. Que d'appels dans le Nouveau Testament que Dieu nous envoie. Appelés à la communion de son Fils au royaume, à la vie éternelle, à être rendus justes, à la lumière, au salut. Mais c'est un vrai trésor que auquel Dieu nous appelle et nous invite. Alors aujourd'hui, est-ce que cet appel à se repentir et à se convertir, parce que c'est le seul chemin pour entrer dans cet appel, il n'y en a pas d'autre, se repentir de mon état de pécheur, et se repentir des fruits de ce péché que j'ai pu commettre, et se convertir à Jésus-Christ. Et je suis frappée aujourd'hui parce que c'est un message qui retentit peu. Et je crois que Dieu appelle l'Église à redire ce message de la repentance et de la conversion. Je repensais au message, au discours de Pierre quand tous ces chrétiens réunis ont été baptisés du Saint-Esprit et entendaient plein de nouvelles langues. Et Pierre leur disait, mais vous voyez, celui dont il était question à telle époque, dans tel endroit de l'Écriture, à tel moment, et Pierre a repris l'historique, celui-là, c'est celui que vous avez crucifié l'autre jour. C'était terrible. Si Pierre était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dirait? On reprend l'histoire depuis 2000 ans. Le christianisme s'est répandu en Turquie. Par la grâce de Dieu, il est allé en Grèce, en Europe. aux extrémités de la Grèce, mais l'Europe a été au bénéfice de cet évangile. Et je crois que l'Europe est marquée par le fruit de cet évangile. Je suis profondément convaincue que la démocratie est le fruit de l'évangile. Ce n'est pas une situation parfaite, mais elle apporte la liberté à chacun. Je crois qu'aujourd'hui, si la France et si l'Europe ne retournent pas à ce Jésus-Christ, Dieu vivant, crucifié et ressuscité, s'il n'y a pas de conversion et de repentance et de conversion en Europe, l'Europe va à sa destruction. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous me direz, bah, Dieu va juger. Ah, les jugements de Dieu. Mais non. Alors, peut-être que oui, parce que beaucoup de choses sont écrites à l'avance. On le sait, mais on ne sait pas quand. Mais je crois que les comportements qu'on adopte, tout simplement, c'est une peau de banane qui nous entraîne vers quelque chose et qui donne des droits à l'ennemi pour vivre et pour amener de la violence, pour amener plein de choses. C'est juste l'absence de repentance et de conversion, non pas à des idoles, mais à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui en Europe, on a honte de Jésus-Christ. On n'ose plus parler de lui. On n'ose plus dire qui il est. Et je crois que si l'Europe ne se repent pas et ne se convertit pas, elle va vers sa perte. Il n'y a pas, c'est pas, enfin pour ceux qui me connaissent, vous savez que ce n'est pas dans mon genre d'être un oiseau de mauvais augure, mais je crois que les temps sont sérieux, sont sérieux. Je crois qu'on là aussi, on est à des époques de bascule. Et il nous faut réentendre cet appel comme à la Pentecôte. Et je crois que Dieu donnera aussi la puissance du Saint-Esprit, hein, et la manifestation. Il confirmera les messages par sa puissance. Alors, si nous avons répondu au premier appel, si nous avons pu nous repentir, nous convertir, si nous avons choisi d'aller à la lumière de Christ, quels sont les autres appels qui suivent? Et c'est une parole qu'Isabelle a apportée dimanche dernier en fin de culte. Soyez saints, car je suis saint. Quand on était au collège biblique, on avait dû faire un travail de mémoire. Notre appel à la sainteté. Ah, ça c'est un message qui part. Ce n'est pas tellement gratifiant d'actualité. Hein. Dans 1 Pierre, il est dit, Dieu vous a appelé et il est saint, alors soyez saint. Vous êtes une race choisie, prêtre et sacrificateur du roi, nation sainte. Notre appel à la sainteté n'est pas de quitter du légalisme ou de devenir parfait. C'est de se dire, parce que mon Dieu est saint, il m'appelle à vivre un chemin qui me rend semblable à lui, pour être témoin en France, en Europe et partout où Dieu me conduira. Par amour pour lui, est-ce que je veux accepter ce chemin de sainteté? Ça s'appelle la sanctification. Ces moments où Dieu nous dit « Coucou, dans la cave, là, il y a une porte qui est fermée à clé depuis très longtemps. Il faudrait qu'on aille nettoyer ce qu'il y a là-dedans. Bien là, tout au fond du grenier, tu as une malle. Oh, avec plein de choses. Est-ce qu'on va... Et Dieu appelle. C'est nous qui répondons. Mais c'est sa pensée. Individuellement et collectivement, nous sommes appelés à être saints, à vivre. Cette sainteté, elle nous est acquise en Jésus-Christ. Quand Dieu regarde Christ et nous voit en Jésus-Christ, il nous voit déjà saints. Waouh! Je suis sainte. Vous vous rendez compte? Mais entre Jésus-Christ et moi, entre le ciel et moi, avec mes deux pieds sur la terre, il y a tout un chemin. Et c'est ce chemin, cet appel, parce que c'est un appel de Dieu. Veux-tu venir avec moi pour être transformé de gloire en gloire à mon image? La sainteté, ce peuple saint, la pensée de Dieu, c'était un peuple mis à part, différent. Quand Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, c'est un peuple dans le monde, mais différent, mis à part. Et c'est le sens du mot église. En grec, ecclesia, c'est un groupement de personnes mis en dehors du monde du péché. C'est ça la pensée de Dieu, c'est d'être mis à part. Nous sommes individuellement et collectivement appelés à la sainteté. Et ça, je crois que la prophétie de ce matin nous a rappelé. Attendez-vous les uns les autres. Nous sommes dépendants les uns les autres et appelés en tant que peuple mis à part à la sainteté. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est-à-dire que mes choix, mes réponses, mes comportements auront obligatoirement un impact et une résonance sur le peuple de Dieu. Quelle responsabilité on a ! Mais c'est l'appel de Dieu. Waouh, hein, c'est... Et ce chemin, il nous donne la force vraiment pour le vivre. Parce que son objectif, c'est que nous soyons transformés en la même image que lui. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que j'avais envie. Ce n'est pas un objectif innocent à l'heure actuelle. Le monde évangélique est traversé par des courants qui n'ont plus cet objectif-là. Il y a deux courants aujourd'hui qui mènent l'Église vers une vision managériale de l'Église, c'est-à-dire il faut du rendement et de la croissance. Donc il faut du chiffre, entre guillemets, pas financièrement, quoique pour certains aussi. Et il faut que les Églises soient en croissance. Elles deviennent des méga-churches. Là, il y a du fruit. Là, on a répondu. Vraiment, c'est grave parce que ça fait 20 ans que ça traîne dans nos églises et qu'il y a toute la vision des leaders. Il faut former des leaders. Quelqu'un, l'autre jour, dans notre église, pas ici, bien ailleurs, disait « Nous avons cette vision-là, faire des disciples et implanter des églises, parce qu'il faut faire du chiffre. J'espère que vous mettrez tout votre cœur à nous suivre. » Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Je ne suis pas appelée à suivre des leaders. Je suis appelée à suivre Jésus-Christ qui m'appelle à vivre une transformation et à vivre avec un peuple qui accepte la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et il y a un autre courant, on a déjà parlé, le courant de Bethel, qui lui, alors, c'est d'implanter une christocratie dans le monde, de gré ou de force, mais qui ne répond absolument pas à cette exigence-là. Donc, quand vous allez sur Internet, soyez vigilants. Vraiment, aujourd'hui, c'est très subtil. Si vous écoutez des prédications, c'est très bien, il y en a plein qui sont bonnes. Priez avant, demandez au Saint-Esprit de vous rendre vigilant. Et s'il y a des doutes, on peut en parler. On peut écouter, on peut voir, oui, ça c'est bien, ça c'est... Hein? Je crois qu'aujourd'hui, la pensée de Christ, c'est faire de nous un peuple mis à part parce qu'il est transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. On n'est pas appelé à prendre le pouvoir. Si ça avait été ça, Jésus l'aurait fait. un claquement de doigts, il l'aurait eu. Mais il ne l'a pas fait. Ce n'est pas son objectif. C'est une fausse doctrine. Et il ne nous appelle pas à faire du chiffre. Je suis désolée, mais on n'est pas dans un commerce. L'Église n'est pas commerciale. Autant le commerce, c'est le commerce, oui, mais pas l'Église. Donc soyons vigilants. Voilà, je ferme la parenthèse, mais bon, ces temps, ça me... Voilà, et ça m'énerve. Voilà, ça me met en colère, parce que... Ah, comment est-ce possible? Bon, j'arrête. Hein? Oui, je suis vraiment... Oui, je suis... Ah, si, enfin bon, j'arrête. Le troisième aspect de cet appel de Dieu pour nos vies, ces prêtres et sacrificateurs, nous sommes donc appelés à servir Dieu dans son temple. Prêtres et sacrificateurs, vous savez, ça c'est le point de bascule de la réforme. Il n'y a plus de laïcs ou d'ecclésiastiques. Il n'y a que des ecclésiastiques, selon l'Écriture. Nous sommes tous prêtres et sacrificateurs, appelés à servir notre Dieu dans son temple. Et ça, ça a basculé à la réforme. Des hommes et des femmes ont été tués pour ça. On ne se rend pas compte aujourd'hui. Le seul fait de vous dire ça aujourd'hui, il y a 500 ans, des gens partaient aux galères, étaient brûlés vifs, parce que on basculait dans une connaissance de l'Écriture, les gens ont commencé à lire la Bible et ont découvert cette liberté extraordinaire que Dieu offre à tout un chacun qui est à lui, c'est d'être prêtre et sacrificateur pour le servir dans l'Église. Acte 13, 2, il est dit « Mettez à part, mettez votre nom, pour faire l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Dieu nous appelle à faire des œuvres, pas pour être sauvés, puisque nous avons été sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. C'est différent. Moi, serviteur du Christ, Dieu m'a appelé pour être. Trois points de suspension. Il m'a mis à part pour. Et Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Avant notre naissance, Dieu avait déjà un projet pour notre vie. Et son appel, c'est « Veux-tu entrer dans ce projet pour me servir ?» Et là, les textes que j'ai lus, « Mettez à part, vous pouvez mettre votre nom, est-ce que vous êtes mis à part, Juliette, Maurice, Isabelle, Kylie, Renan, est-ce que vous êtes mis à part pour l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé? Et Dieu m'a appelé pour être... » Trois points de suspension. Là aussi, je pense que c'est essentiel que chacun puisse nommer à quoi il est appelé. Je crois qu'il faut avoir ce courage-là. Alors, je vais dire quelque chose qui ne va pas être très agréable. Pendant des années, cet appel à être tel ou tel service dans l'Église, on l'a donné aux hommes. Je dis souvent, moi, pendant 40 ans, on ne m'a jamais demandé à quoi j'avais été appelée, parce que je suis une femme. Je ne sais pas si vous réalisez. Jamais. Ce n'est pas juste. Dieu nous appelle hommes et femmes parce que nous sommes tous prêtres et sacrificateurs. Nous sommes tous appelés à être. Et là, nous avons, nous, la responsabilité de se placer devant Dieu et de chercher cette destinée que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alors, on ne va pas entrer dans le détail, comment ça se passe et tout, mais voilà, c'est quelque chose d'important. Et là aussi, si Dieu appelle, il faut mettre un nom. C'est important que je sache et que je puisse le dire. Je m'appelle, voilà, c'est mon prénom, et Dieu m'a appelé à être et à dire. Voilà, il n'y a pas de complexe, parce que c'est la pensée de Dieu. Et c'est bon pour des hommes et pour des femmes. Parce qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni maître, ni homme, ni femme. En Christ, le Saint-Esprit nous est donné pour entrer dans cette destinée. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais, hein? Donc, je crois qu'il faut peut-être demander à Dieu de prendre une gomme et d'effacer dans nos pensées la notion de laïque et d'ecclésiastique. Parce que là, on traîne des casseroles, même dans nos milieux encore. Enfin, voilà, je ne vais pas redire des choses, mais oui, mais je le dis parce que, voilà, c'est tellement précieux. Comment peut-on, voilà, presque vilipender ce que Dieu nous donne et ce à quoi il nous appelle. C'est grand, c'est fort, c'est puissant, c'est bon, ça fait du bien, ça le réjouit, ça fait de nous un peuple. Les gens peuvent nous regarder puis dire « waouh, quand même hein ». Ben, je me dis « voilà, pourquoi s'en priver ?» Je trouve que c'est tellement extraordinaire. Donc c'est vrai qu'il y a des choses là, il faut gommer. Hein, peut-être que je vous choque, mais tant pis. Il faut, voilà, il y a des casseroles de tradition qu'on traîne. Et surtout, alors ce n'est pas dans un sens de jugement que je dis, mais surtout dans des cultures catholiques. Parce qu'il y a une tradition encore aujourd'hui tellement forte, que, ou alors dans des structures patriarcales où on, la femme ou même des hommes n'ont pas de place. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai grandi dans un milieu réformé, donc tout ça, ça a déjà été pas mal, bien que, voilà, gommé, mais ça, y a, voilà, parce que c'est humain, ça reste la notion d'hiérarchie, au-delà d'être catholique réformée, je crois qu'elle est avant tout humaine, et elle tire ses racines ailleurs. Mais je crois vraiment qu'il y a là quelque chose que l'on doit découvrir, vivre, s'approprier pour que ce corps de Christ puisse être libéré et s'épanouir. Voilà, nous sommes appelés, en conclusion, par notre nom dès avant notre naissance. Nous sommes appelés à entrer en communion avec le Fils par la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à la vie éternelle. Nous sommes appelés à être saints, car il est saint, et nous sommes appelés à le servir. Alors je conclurai en donnant le verset de Matthieu 22, 14. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je crois que tout simplement Dieu appelle chacun. Pour moi, c'est une certitude. Il y a un appel pour chacun. L'élection, c'est moi qui décide si je veux y entrer ou pas. Elle dépend de ma réponse à moi, de mon libre arbitre. Dieu ne me contraindra jamais. J'aime dire, Dieu convainc, il ne contraint pas. Hein? Ésaïe 65, 12, « J'ai appelé, mais vous n'avez pas répondu. » J'ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. C'est dur, hein? Mais il faut, voilà, se questionner. Donc, je terminerai avec la première interpellation de Dieu au Jardin d'Éden. Où es-tu? Où en es-tu? Seigneur notre Dieu, tes plans, tes projets, tes destinées pour nous sont tellement immenses et belles que nous voulons, pour ma part, je veux encore te dire oui aujourd'hui, un oui total, sans retenue, quel que soit le prix, le chemin. Je veux te dire toute ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu fais parmi nous. Je suis convaincue, Seigneur, que ton esprit saura convaincre de ton amour, parce que tu nous attires avec des cordages d'amour. Et Seigneur, nous voulons encore te dire, aujourd'hui, tu es saint. Tu as fait de nous un peuple ensemble, et nous voulons t'écouter, Seigneur. Marche devant nous, et viens à notre secours, là où c'est difficile, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.